Le règne animal. Le nouveau film Événement de Thomas Caillet.
C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe.
Un choc absolu pour le Parisien. Un coup d'éclat ahurissant pour Télérama. Absolument bluffant pour Première.
Il y a des survivants, j'en ai vu hier soir.
Romain Duris, Paul Kircher, Adèle Exarchopoulos. Le règne animal, actuellement au cinéma.
Nous vîmes un géant qui était sur le bord de la mer tout nu. Et il dansait et sautait et chantait. Et en chantant, il mettait du sable et de la poussière sur sa tête. Il était si grand que le plus grand de nous ne lui venait qu'à la ceinture.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Au moment où vous revenez, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, pour nombre d'entre vous, de voyages lointains, je ne sais pas s'il vous est advenu de rencontrer dans vos diverses pérégrinations certains des peuples dont nous allons parler ce matin. Je pense aux Émicines, qui sont des demi-chiens, aux acéphales, dépourvus de tête, aux stéganopodes, qui s'abritent à l'ombre de leurs pieds, aux agélastes, qui ne rient jamais, aux sternophalmes, qui ont les yeux dans la poitrine, aux monomates, qui n'en ont qu'un seul, aux imantopodes, dont les jambes sont flasques, aux arines, qui sont sans nez, ou encore aux opistodactyles, qui ont des pieds tournés vers l'arrière. À vrai dire, je me vois contraint de ne pas beaucoup croire à ce choc de civilisation. Mais il me semble qu'esquisser une géographie des peuples fabuleux à laquelle l'imagination des hommes a longtemps donné vie à travers les âges nous permettra peut-être de prolonger quelque peu, du côté du rêve, nos évasions qui s'achèvent. Que cela nous permettra d'en colorer d'insolite le moment où nous nous retrouvons à l'aube d'une 25e saison de Concordance des temps. L'occasion m'en est donnée par le livre Enchanté et Enchanteur que mon invité, Olivier Filippona, a consacré à ce thème aux mille facettes. On le sent parfois nostalgique d'une époque où l'exploration du monde n'étant pas achevée, la place de l'imagination, de la fantasmagorie, du farfelu même, demeurait entière. En attendant que les contrées fabuleuses reculent à mesure que progressait la géographie, celle des explorateurs et celle des savants, désormais peut-être trop sérieux. Claude Lévi-Strauss a parlé quelque part des épices morales, dont notre société éprouve un besoin plus aigu en se sentant sombrer dans l'ennui. Voilà une bonne épigraphe pour cette émission.
Les tombeaux de leurs rois sont dans le pays des Gériens, à l'endroit où le Borysthen cesse d'être navigable. Quand le roi vient à mourir, ils font en ce lieu une grande fosse carrée. Cette fosse achevée, ils enduisent le corps de cire, lui fendent le ventre, et après l'avoir nettoyé et rempli de souchets broyés, de parfums, de graines d'ache et d'anis, ils le recousent. On porte ensuite le corps sur un char dans une autre province, dont les habitants, à l'exemple des sites royaux, se coupent un peu de l'oreille, se rasent les cheveux autour de la tête, se font des incisions au bras et se passent des flèches à travers la main gauche. De là, on porte le corps du roi sur un char dans une autre province de ses états. Quand on lui a fait parcourir toutes les provinces et toutes les nations soumises à son obéissance, il arrive dans le pays des Gériens, à l'extrémité de la Scythie, et on le place dans le lieu de sa sépulture sur un lit de verdure et de feuilles entassées. On plante ensuite autour du corps des pics, on met dans l'espace vide de cette fosse une des concubines du roi, qu'on a étranglée auparavant, son cuisinier, son écuyer, son ministre, un de ses serviteurs, des chevaux. En un mot, les prémices du reste de toutes les choses à son usage, et des coupes d'or. Ils ne connaissent en effet ni l'argent ni le cuivre. Cela fait, ils remplissent la fosse de terre et travaillent tous, à l'envi l'un de l'autre, à élever sur le lieu de sa sépulture un tertre très haut. L'année révolue, ils prennent, parmi le reste des serviteurs du roi, ceux qui lui étaient les plus utiles. Ces serviteurs sont tous scythes de nation. Ils étranglent une cinquantaine de ses serviteurs avec un pareil nombre de ses plus beaux chevaux. Ils leur ôtent les entrailles, leur nettoient le ventre et, après l'avoir rempli de paille, le recousent. Ils posent sur deux pieux la moitié d'une roue, la jante tournée vers le sol, puis l'autre moitié sur deux autres pieux. Ils élèvent ensuite sur ces deux demi-roues les chevaux, après leur avoir fait passer des pieux dans toute la longueur jusqu'au cou. Ils leur mettent ensuite un mors et une bride, tirent la bride en avant et l'attachent à un pieu. Cela fait, ils prennent les 50 jeunes gens qu'ils ont étranglés, les placent chacun sur un cheval, après leur avoir fait passer le long de l'épine du dos jusqu'au cou une perche dont l'extrémité inférieure s'emboîte dans le pieu qui traverse le cheval. Lorsqu'ils ont arrangé ces 50 cavaliers autour du tombeau, ils se retirent.
Olivier Philipona, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai proposé, pour ouvrir notre conversation, un texte d'Hérodote, qui remonte au 5e siècle, donc sur les tombeaux scythes. C'est une lecture de Roger Bray dans Les Lundis de l'Histoire de Jacques Le Goff sur France Culture, le 16 février 1981. Hérodote disait « Pour ma part, mon devoir est de dire ce qu'on m'a dit, mais non pas de tout croire. » C'est peut-être un bon point de départ, non ?
Oui, en tout cas, Hérodote a beaucoup donné à croire aux auteurs qui l'ont suivi. Vous citiez Lévi-Strauss en introduction, un texte qui figure dans les premières pages de Triste Tropique. Lévi-Strauss disait que son objet, finalement, l'objet de l'ethnographe, c'était de reconstituer l'exotisme à partir de parcelles et de débris. Et Hérodote, on est vraiment aux deux bouts chronologiques de l'ethnographie. On peut dire que c'est le premier ethnographe, et Hérodote ne reconstituait pas l'exotisme, il a créé la catégorie de l'exotisme, on peut le dire ainsi.
Alors cet exotisme, nous allons le parcourir de multiples façons. Bien sûr, remontons avec lui, si vous voulez bien, à la Haute Antiquité, et puis ensuite nous progressons jusqu'au moment où nous aurons à considérer que les mythes sont en train peut-être de s'effacer. Encore que, après tout, pendant longtemps, on a projeté jusqu'à Mars le rêve d'un ailleurs fabuleux.
Et on continue de le faire. C'est vrai que les missions qui se préparent pour Mars et peut-être au-delà sont quand même sous-tendues par l'espoir qu'il y ait des traces de vie sur les autres planètes. Toutes les missions extraterrestres au sens propre qui se préparent et dont on parle suscitent beaucoup la curiosité du public et de la presse dès qu'on soupçonne la présence de bactéries ou d'une possibilité de vie extraterrestre. Je crois que c'est vraiment un des ferments et un des aimants de ces missions.
Les astronomes d'aujourd'hui nous expliquent qu'il y aurait de 200 à 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie et 125 milliards de galaxies. Par conséquent, les chances statistiques que quelque part ailleurs la vie différent de la nôtre, mais une vie existe, perdure.
Oui, c'est finalement le même fantasme qui anime l'humanité, et principalement les Occidentaux, depuis l'âge des grandes découvertes.
Alors revenons à des dimensions plus proches, même si Fontenelle lui-même évoquait des troglodytes sur la Lune.
Oui, exact, oui. Herbert George Wells a également écrit sur ce sujet.
Hérodote, revenons à l'Antiquité. Comment définir cette profusion de peuples fabuleux dès le 5e siècle, Hérodote, et même avant?
Mais Hérodote le dit très bien dans le petit extrait que vous avez cité. Ils se sont tenus de dire ce qu'on lui a dit. Alors, les scythes, il les a rencontrés, en effet. Ce qu'il dit des scythes dans l'extrait qu'on a entendu est certainement réel et n'est pas en soi fabuleux. Mais en revanche, les scythes lui ont raconté il a recueilli des récits sur des peuples scythiques qui, eux, sont certainement des peuples fabuleux, c'est-à-dire des peuples qui n'ont soit qui n'ont pas existé, soit dont les mœurs fantastiques n'étaient pas réelles. Je pense aux Arimaspes, par exemple, qui sont une tribu scythique qui passait pour n'avoir qu'un œil, aux Icédons, qui étaient des scythes anthropophages. L'anthropophagie des scythes est bien, bien, bien établie tout au long de l'Antiquité, même si personne n'y a assisté, en vérité.
Comme toujours, l'esprit rationnel, progressivement, s'était forcé d'expliquer les choses. Les Arimaspes dont vous parlez, certains nous ont dit que c'était des archers qui fermaient un œil pour pouvoir tirer.
Ce qui semble assez plausible. Et de la même manière, le fait que les nomades des contrées scythiques, c'est-à-dire qui sont situées au nord de la mer Noire, se déplaçaient presque exclusivement à cheval, ont probablement créé la catégorie fabuleuse des hippopodes, hein, c'est-à-dire des hommes à tête de cheval, qui sont finalement des centaures grecs transposés en Scythie et qu'on va retrouver au Mexique au moment de la conquête.
Dans Homère, on voit passer les Cimériens qui ignoreraient le soleil, peut-être sens des mineurs.
Alors oui, c'est une explication qui a été proposée par un grec, encore un, Éphore de Cumes, qui trouvait très étrange que ces Cimériens, qui sont mal situés, parce que la Scythie, à l'époque, les frontières, les limites de la Scythie sont mal définies. Ça va vraiment du septentrion que les Grecs ne connaissent pas, être vraiment le nord du monde, jusqu'au bord de la mer Noire. Comment expliquer que les Cimériens, dont les Grecs redoutaient les Rasias, ne connaissaient pas le soleil? Alors soit, effectivement, ils habitaient très au nord, soit effectivement ils étaient des métallurgistes qui travaillaient dans les mines.
Est-ce qu'on peut commencer à faire une sorte de catégorie des regards qui sont jetés dès ce moment-là sur ces peuples fabuleux dont nous parlons ce matin?
Il y a deux choses qu'on peut dire. Il y a un texte qui est très frappant d'un historien latin qui s'appelait Olugel, écrit les Nuits Attiques au IIe siècle, et qui raconte qu'il, de passage dans le port de Bringe, chez un bouquiniste, si on peut appeler ça comme ça, il a acheté d'anciens volumes d'auteurs grecs qui racontaient toutes sortes d'histoires fabuleuses sur des peuples étranges, souvent des peuples de l'Inde avec alors des peuples les Siapodes qui n'ont qu'un pied, et qui sautent sur ce pied ou qui s'abritent à l'ombre de ce pied, les Panothéens qui ont d'immenses oreilles dont ils se couvrent, etc. Et il n'y croit pas lui-même, mais il rapporte ces histoires. Et ça, c'est quelque chose qui va perdurer jusqu'à la Renaissance. On fait mine d'être incrédule, mais malgré tout, on véhicule ces histoires parce qu'on a envie d'y croire, parce que je pense que la curiosité, tout simplement, est une des caractéristiques fondamentales de l'homme. Lorsqu'on parle de l'exploration géographique, des découvertes, de l'expansion de l'humanité sur la Terre, on l'explique toujours, semble-t-il, surtout pour la conquête espagnole, par l'avidité, par le désir de conquête, par le désir guerrier. Mais la curiosité domine quand même, malgré tout. Elle perdure encore aujourd'hui. Si on peut caractériser ces peuples étranges dont parlent les auteurs de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, ce qui est très curieux, c'est qu'ils se caractérisent très très souvent par des difformités. Des difformités des extrémités. Ils ont plusieurs yeux, ils n'ont pas de nez, ils ont d'immenses oreilles, ils ont 6 doigts, ils ont 10 doigts, ils ont 6 bras, etc., etc. Je veux dire que je ne parviens pas à me l'expliquer. Peut-être avez-vous une explication pour cela, mais c'est une des caractéristiques de ces peuples, du moins jusqu'à la Renaissance.
Les savants entassent les savoirs plutôt que de chercher l'erreur, tout en prenant éventuellement un peu de distance.
On ne peut pas contester des savants, des érudits, qui ont été comme Pline, par exemple, dont l'histoire naturelle reste, et qui véhicule tous ces contes fabuleux, dont l'histoire naturelle reste un écrit fondamental jusqu'à la Renaissance, et qu'on se doit de citer avec révérence. Alors, à la Renaissance, effectivement, les cosmographes de la Renaissance, comme Tevet, comme Belforest, comme en Allemagne, Sébastien Münster, commencent à prendre leur distance, mais continuent à véhiculer toutes ces histoires. Et puis tous les auteurs chrétiens du Moyen-Âge qui ont écrit toutes ces nomenclatures, toutes ces encyclopédies médiévales, se réfèrent toujours à des auteurs comme Isidore de Séville, par exemple, qui est le grand commentateur, le grand savant du 8e siècle. Et tous se protègent derrière l'autorité de d'Isidore de Séville, alors que, pour le dire de façon très brutale, tout ou presque est à jeter chez Isidore de Séville.
Vous citiez Pline l'Ancien, dont la mort a été tragique sous l'effet de, du fait de l'éruption du Vésuve sur Pompéi. Pline l'Ancien, pour lutter contre le doute, disait « Qui a cru à l'existence des Éthiopiens avant de les voir ? Et quelle est la chose qui ne nous paraît pas étonnante quand elle vient à notre connaissance pour la première fois ?» Donc il y a toujours cette dialectique du « c'est bizarre, méfions-nous » et en même temps, puisque c'est bizarre, peut-être nous sommes sceptiques, nous avons le droit d'être sceptiques.
Oui, et la chrétienté propose un autre raisonnement. Beaucoup d'encyclopédistes, entre guillemets, du Moyen-Âge disent « mais est-ce que les cyclopes qui n'ont qu'un œil ne nous prendraient pas pour des êtres fabuleux, nous qui en avons deux ?» Est-ce que les sciapodes ou les monocèles qui n'ont qu'un pied ne nous prendraient pas pour des êtres fabuleux parce que nous avons deux pieds ? Et tout cela découle de saint Augustin, et encore une autorité incontestable, pour qui on doit accueillir dans la cité de Dieu des êtres qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas rencontrés, qui peuvent exister, dont on nous a parlé, qui ont des oreilles immenses, qui n'ont qu'un pied, qui ont six bras, etc. Ils n'existent probablement pas, mais s'ils existaient, ils ne peuvent être que l'œuvre de Dieu. Et donc, nous devons les accueillir sans scepticisme.
Alors, regardons certains de ces peuples de plus près, tels que la rêverie, l'imagination, ou l'esquisse d'une observation déformée peut nous les fournir. Commençons par les hyperboréens.
Les hyperboréens. Alors là, on est vraiment entre la légende et la réalité. Ou souvent, la légende, d'ailleurs, finit par s'incarner dans une réalité. Comme pour les Pygmées, par exemple, voilà, qui sont au départ un peuple mythique. Les hyperboréens, pour les Grecs, sont un peuple qui vit au-delà du Borée, c'est-à-dire du vent glacial qui souffle du nord, au-delà des mythiques monts Riphée, dont on ne sait pas trop si c'est l'Oural, les Carpates, les Alpes, et qui vivent dans une espèce de pays de cocagne. Ils vivent très longtemps sans connaître ni le travail, ni la maladie. Ils finissent, dit Pline, par mourir par satiété de la vie, en se jetant des falaises, parce qu'ils ont eu leur content de vie, mais jamais la maladie ni la mort ne les rattrape en réalité, ils la devancent. Et chaque année, il y a ce qu'on appelle la théorie hyperboréenne, la théorie, c'est-à-dire la file indienne en quelque sorte. Les hyperboréens font parvenir aux Grecs les prémices du printemps, les fruits qui sont emballés dans de la paille, etc., et qui sont portés par des vierges depuis ces contrées très lointaines jusqu'en Grèce. Alors on a supposé qu'en réalité, ces hyperboréens étaient simplement une colonie de Grecs ioniens, c'est-à-dire d'Asie mineure, probablement à Istria, je crois, donc sur les bords de la mer Noire, donc beaucoup moins loin que leur rêve ne le supposait. Et puis par la suite, ils en sont venus à désigner de façon beaucoup plus ethnographique, en quelque sorte, des peuplades celtes ou gauloises qu'on a appelées très communément des hyperboréens.
Nous avons ici déjà parlé, consacré une émission entière aux Amazones, mais évidemment, elles figurent dans votre liste, Olivier Philippona, toujours à la rencontre de l'imaginaire et de réalité qui parfois viennent nourrir cet imaginaire même.
Alors les Amazones, il faudrait consacrer une émission entière si vous l'avez déjà fait, à ces femmes fabuleuses, mais c'est vraiment un cas très intéressant parce que effectivement, elles naissent en Grèce, bien sûr, c'est un des mythes principaux des Grecs qui s'enracinent dans une réalité, bien entendu. Du reste, on a parlé des Scythes au début, mais la survie des Amazones, après leur défaite face à Achille, elles le doivent aux Scythes avec lesquels elles se sont accouplées, qui ont donné une descendance, elles ont ensuite été vaincues par Alexandre. Mais c'est typique des peuples fabuleux qui ne s'éteignent jamais, finalement, puisqu'on va les retrouver d'un bout à l'autre du monde. Et lorsqu'on aura exploré entièrement le continent asiatique, découvert...
Il restera l'Amérique.
Voilà, il restera l'Amérique pour les... Et on va imaginer, notamment dans les romans de chevalerie, la façon dont les Amazones ont pu passer d'Asie en Amérique par la Californie. Et on va les retrouver, bien sûr, en Amérique du Sud. Elles vont donner leur nom au fleuve Amazon.
Le Nord fascine d'abord. Le voyage de Pythéas est resté dans les mémoires. C'est ce personnage qui aurait, entre 330 et 320, conduit son bateau, l'Artémise, jusqu'au pays des Scanes, qui semble être le nord de la Norvège. Écoutez cet extrait du voyage tel qu'il nous a été rapporté. C'est une lecture de Pierre Blanchard dans Analyse spectrale de l'Occident de Pierre Cipriot, le 29 novembre 1958.
Le soir. Le soleil s'est caché derrière les montagnes qui nous séparent de l'océan. Le roi et la reine du pays des Scanes nous ont tous reçus dans une longue maison de bois, Toutes sortes de poissons nous ont été offerts. La viande d'un animal qui ressemble à notre cerf nous fut aussi présentée sur un grand plateau rond en bois clair. Enfin, des fromages faits avec le lait de la femelle du renne nous furent donnés. Naturellement, j'ai offert du vin. J'ai fait apporter une amphore de chaque sorte de vin que nous avons à bord de l'Artémis. Ces barbares n'en avaient jamais vu ni bu. Ils ont tous été ivres rapidement et nous ont offert un spectacle de lutte guerrière qui nous a fait frémir. Les plus jeunes d'entre eux, sous les yeux même des femmes et des enfants, ont lutté l'épée nue, protégés seulement du bouclier de bois qu'ils accrochent habituellement sur les flancs de leur nef. En peu de temps, certains d'entre eux se couchèrent sanglants sur le sol. Le Cos me dit alors que ceux qui mouraient en combattant gagnaient le séjour des bienheureux. Et ils s'en iraient voguer vers le monde des morts, de l'autre côté de la terre, et ils rejoindraient les héros qui ne sont jamais revenus de leur voyage vers la demeure du soleil. Ces paroles me troublèrent plus que le spectacle de la bataille et la vue du sang, car je pensais que certains parmi les plus valeureux de ces barbares s'étaient risqués sur l'océan à la découverte de mondes inconnus, avec une foi peut-être encore plus grande que la mienne. Enfin, le combat cessa. On soigna les blessés et les jeunes filles se disputèrent cet honneur. Qu'arriverait-il si ces peuples guerriers et courageux partaient à la conquête du monde habité? Saurions-nous opposer à leur vaillance un courage suffisant? Ou nous faudrait-il alors traiter avec eux?
Fascination, inquiétude mêlée, quand Pythéas revient, il se heurte au doute d'un certain nombre de savants, notamment du côté de Marseille.
Ah oui, mais Pythéas, le Massaliote, effectivement, c'est un grec de Marseille. Il y a beaucoup de doutes autour de son voyage. On ne sait pas s'il a fait la circumnavigation complète de l'Espagne, par exemple. Certains pensent qu'il serait parti plutôt de Normandie après avoir traversé la Gaule. Et on ne sait pas s'il est allé jusqu'au nord de la Norvège. Certains pensent plutôt à l'Écosse, aux Hébrides, au Jutland, par exemple. Mais ce qui est certain, c'est que dans son récit, qui a été rapporté, hein, comme beaucoup de ses récits sont cités par des auteurs ultérieurs, il dit avoir rencontré sur son chemin, sur la mer, un poumon marin, une espèce de matière intermédiaire entre le liquide et le solide qui ressemble beaucoup à une banquise dérivante. Et donc, il est fort possible qu'il soit allé, certains disent, jusqu'en Islande, jusqu'au pays de Thulé.
À mesure que le temps passe, on s'éloigne du centre de la civilisation vécue comme telle par ceux qui l'habitent, et on va vers l'Inde. Alors l'Inde est un continent beaucoup plus mystérieux, en dépit de l'avancée d'Alexandre, que peut-être la région de l'Eurasie.
Oui, je dirais même qu'elle est d'autant plus mystérieuse qu'elle a été découverte et conquise par Alexandre. C'est ce que Jacques Lecoff appelait le réservoir onirique, l'origine de l'anthropologie surréaliste. C'est encore un terme de Jacques Le Goff qui a beaucoup écrit sur cette question.
Oui.
L'Inde dans l'imaginaire médiéval, alors qu'on n'a pas encore fait la circumnavigation de l'Afrique, on imagine que l'océan Indien est encore un lac en réalité. Et donc prend l'aspect d'une sorte de paradis terrestre où vivent toutes sortes de créatures inconnues de l'homme, dont on parle par ouï-dire, quelques Grecs qui se sont rendus là-bas ou en ambassade, ou bien qui ont recueilli des récits de peuples indiens, nous rapportent ces récits de peuples fabuleux qui souvent sont issus des mythes indiens, qui sont issus, dont on trouve l'équivalent dans le Mahabharata, par exemple, et dont les noms sont très très souvent la transcription exacte du sanskrit.
C'est là qu'on retrouve les astomes, et cela nous conduise vers ce qu'il peut y avoir de plus poétique dans ces évocations de peuples fabuleux, les astomes, l'odorat.
Oui, il faut en dire un mot. Les astomes sont privés de bouche. Comme ça a paru quand même tout à fait extravagant à certains auteurs médiévaux et qu'il fallait conserver cette croyance à tout prix, on a supposé qu'ils avaient une bouche absolument minuscule et qu'ils pouvaient aspirer avec des petites pailles un peu de liquide. Mais l'important, c'est que les astomes vivent de l'odeur des mets et notamment l'odeur des pommes, d'où leur nom de mélophage aussi qu'on leur donne parfois. Ils étaient supposés vivre sur le long du Gange et près des sources du Gange. Et là encore, plutôt que d'écarter complètement cette légende, au cours des siècles, on va en proposer des explications diverses. Donc, il y a certains savants vont nous dire que les astomes respiraient l'odeur des fleurs et des pommes pour supporter le mal de l'altitude, par exemple. Ce que Jacques Le Goff trouvait complètement absurde, il disait, c'est encore plus simple que ça, les peuples fabuleux pour l'Occident chrétien sont des peuples qui ne sont pas doués de parole, qu'on n'entend jamais parler, on n'a jamais recueilli la parole d'un de ces êtres fabuleux. Il ne faut pas chercher l'explication plus loin, mais des explications plus récentes nous disent que les astomes sont en réalité des adeptes du jainisme,
c'est-à-dire
des végétariens et qui se couvrent la bouche pour se garantir de ne pas avaler un insecte et de donner la mort à un insecte. Et ce qui est très curieux, c'est que ces astomes, on va les retrouver encore une fois aux Amériques. Ça, c'est un phénomène qui intriguait beaucoup Lévi-Strauss. Est-ce qu'il s'agit d'une croyance universelle qui est propre à tous les hommes, ou est-ce que c'est une croyance qui a migré en quelque sorte vers les Amériques, soit avec les conquérants, soit par le nord de l'Asie et le détroit de Bering.
Et d'ailleurs, ce peuple particulièrement séduisant, les astomes, a nourri dans l'intervalle la littérature, puisque Rabelais les évoque. Rabelais, après tout, Gargantua, c'est aussi un personnage d'un peuple fabuleux. Rabelais, dans le Quart Livre, dit d'eux, rien ne beuve, rien ne mange, sinon vent. Et Fénelon, dans le Voyage de Télémaque, emmène son disciple chez eux pour montrer qu'il consomme des fleurs d'oranger au petit déjeuner, une collation de jonquilles et de tubéreuses pour le dîner, un souper de fleurs odoriférantes et un assortiment de parfums en cassolette. Flaubert aussi a repris l'évocation de ce peuple particulièrement séduisant, dont l'hypersensibilité l'a frappé. Délicat et vaporeux, nous nous nourrissons de lumière, de parfums, de musique. Mais les fortes odeurs nous donnent des maladies, les ténèbres nous rendent fous, les sons faux nous déchirent. C'est dans la Tentation de Saint-Antoine, 1874, qui s'est beaucoup nourri de rêveries sur les peuples fabuleux.
Mais ça illustre bien le fait que, à mesure que les peuples fabuleux sortent de l'histoire, ils envahissent la littérature.
Parmi ces peuples fabuleux, il faut faire un sort, Olivier Philipponas, celui qui entourait le prêtre Jean, figure également mythique de grande importance, dont une lettre, évidemment apocryphe, a beaucoup marqué les esprits, l'intelligence et les réflexions depuis le Moyen-Âge. Écoutons donc cet extrait de ce texte qui est cité dans la chronique de l'évêque allemand Otton de Freising au XIIe siècle. C'est Jacques Franz qui le lisait dans « Roue libre » de Marie-Hélène Freissé sur France Culture en mars 1983.
« Prêtre Jean, par la grâce de Dieu, roi tout-puissant sur tous les rois chrétiens, mandons salut à l'empereur de Rome et au roi de France, nos amis. Nous vous faisons savoir de nous, de notre état et du gouvernement de notre terre, c'est à savoir de nos gens et de nos manières de bêtes. Et pour ce que vous dites que nos Grecs ou gens grégeoises ne s'accordent à adorer Dieu comme vous faites en votre terre, nous vous faisons savoir que nous adorons et croyons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont trois sonnes en une déité et un vrai Dieu seulement. Sachez que nous avons promis et juré en notre bonne foi à conquérir le sépulcre de notre Seigneur et toute la terre de promission.
Comment interpréter, Olivier Philipponas, la formidable influence de la mythologie du prêtre Jean entouré de ce peuple en vérité fabuleux?
C'est effectivement une longue histoire qui commence au XIIe siècle, vous l'avez rappelé, au milieu du XIIe siècle, quand l'empereur byzantin Manuel Comnène reçoit une lettre de ce prêtre Jean qui lui présente son pays qui se trouve perdu au milieu de l'Asie, avant Tchataï, avant la Chine lointaine, dans laquelle Marco Polo ne s'est pas encore rendu, et qui se présente comme un roi chrétien, donc comme un allié des pays occidentaux face à une menace musulmane, bientôt la menace mongole au début du XIIIe siècle. Et dans cette lettre, pour capter l'attention des occidentaux, bien entendu, On va recycler absolument tous les mythes de peuples fabuleux depuis l'Antiquité. Donc on les retrouve tous, les hippopodes, les cyapodes qui sautent sur un pied, les toutes sortes d'anthropophages, les camélopodes à pied de chameau par exemple, les lyphaons qui ont des yeux derrière la tête, enfin plus exactement ils en ont trois derrière et un devant, etc. etc. Le prêtre Jean vit dans un palais extraordinaire qui est couvert d'émeraudes et de pierres précieuses. Et ce qui est étonnant, c'est que alors ça coïncide avec le mythe du paradis terrestre qui se trouve toujours à l'Orient, qui est le pays où l'on n'arrive jamais, mais tout à fait à l'Orient de l'Orient, en quelque sorte. Et en même temps, ça coexiste avec le mythe des nations recluses par Alexandre derrière la muraille qu'il aurait construite sur un col du Caucase pour rejeter tous les peuples impurs qui sont par milliers, et notamment les peuples anthropophages, les peuples démoniaques de Gog et Magog. Tout ça, ça se situe dans la même région. Donc on a un petit peu l'enfer et le paradis dans la même région.
Quelle est la légende de Gog et Magog?
Alors ça vient de la Genèse, ça vient de l'Apocalypse, pardon, et ça vient de d'Ézéchiel, qui dit qu'à la fin des temps, un antéchrist, Gog du pays de Magog, franchira les barrières qui ont été élevées entre l'Orient et l'Occident et envahiront le monde, et ce sera la fin du monde. Et c'est Alexandre le Grand aurait donc, avec tous les autres peuples impurs, repoussé ces peuples, et Gog et Magog, que finalement on va identifier aux Mongols à cause de la paronymie entre les deux noms, ont été repoussés à l'extrême de l'Orient. Les peuples de Gog et Magog sont mal décrits finalement, parce que ça relève vraiment du mythe. On imagine que ces peuples qui sont reclus, qui sont retenus prisonniers en quelque sorte à l'extrême Orient de l'Asie, déferleront sur le monde, selon la prophétie d'Ézéchiel, vraiment à la fin des temps, et que ce sera la fin du monde, donc la fin de la chrétienté. Et ce qui est très frappant pour les Occidentaux, c'est que ce cataclysme se produit au XIIIe siècle avec les invasions mongoles. Donc on va rapprocher évidemment le nom de Gog et Magog de Mongol, de Mongol. C'est Marco Polo qui fait le rapprochement entre les deux, je crois, l'un des premiers. C'est une des raisons aussi pourquoi on va continuer à chercher des alliés chez les possibles descendants du prêtre Jean, par exemple. Et ça explique la litanie d'ambassades chrétiennes qui vont être envoyées à la cour du Grand Mongol un petit peu plus tard, à partir du milieu du XIIIe siècle, pour se découvrir des alliés, pour parlementer avec les Mongols, qui sont quand même arrivés jusqu'à Zagreb, hein, en Europe, jusqu'en Pologne.
On crée le rêve d'une protection possible.
On crée le rêve d'une protection possible qui trouve un semblant de réalité, finalement, parce que ces ambassadeurs chrétiens qui vont se rendre, Guillaume de Rubruck, Odoric de Pordenone, dont les récits sont extraordinaires, et qui véhiculent encore des histoires d'êtres fabuleux, vont finir par rencontrer, effectivement, des communautés chrétiennes, entre le lac Baïkal, les Indes de Gobi, des communautés nestoriennes, qui se sont installées là au VIe siècle, et qui ont véhiculé dans l'Occident chrétien, ou qui ont continué à transmettre toute cette mythologie venue de l'Inde et de l'Extrême-Orient.
C'est un cas intéressant et qui est assez fréquent, où le rêve vient rencontrer un certain nombre de réalités que le rêve plie en quelque sorte à sa main. Si
exactement, et ça va se reproduire encore pour le prêtre Jean quand il sera devenu patent pour tout le monde, qui ne se trouve pas derrière la muraille de Chine.
Alors il descend vers l'Afrique, vers l'Éthiopie.
Il descend vers l'Afrique, vers l'Éthiopie. Il faut rappeler que l'Éthiopie, jusqu'au Moyen-Âge, c'est une catégorie, une région assez indistincte, puisque la frontière entre l'Afrique et l'Asie, c'est le Nil. Ça n'est pas la mer Rouge, donc l'Éthiopie, grosso modo, ça va...
Jusqu'au Sénégal actuel.
Ça va du Soudan, oui, ou même peut-être ça va beaucoup plus loin, c'est l'Afrique en quelque sorte, l'Afrique noire, mais ça regroupe aussi, ça contient aussi la péninsule arabique. Et effectivement, à partir du XIIIe, XIVe siècle, on va s'aviser que le Négus éthiopien, qui est un roi chrétien, est probablement le véritable prêtre Jean, ou son descendant.
Nous voilà en Afrique.
Oui.
C'est bien, nous voyageons beaucoup ce matin. Olivier Philipponat, les peuples fabuleux ne sont pas rares dans ce continent non plus.
Non, ils ne sont pas rares dans ce continent. Ce qui est étonnant avec le cas de l'Afrique, c'est que c'est un continent qui est bien connu des Grecs antiques, du moins toute la zone méditerranéenne et puis une partie du Nil, et en même temps qui reste inconnu pratiquement jusqu'à l'aube du XXe siècle, hein, où la découverte, la remontée du Nil et la découverte des sources du Nil, qui a longtemps passé pour un fleuve mythique qui coulait depuis le paradis.
La rencontre entre Stanley et Livingstone, Mr. Livingstone, I presume.
Alors, ils ne croyaient plus au paradis terrestre, je pense, mais à l'époque d'Hérodote et de Diodore de Sicile, par exemple, les Éthiopiens étaient parés de vertu. C'est quelque chose qui a beaucoup choqué les ethnographes du 19e siècle. Pour les Grecs, souvent, c'est les peuples d'Afrique, d'Afrique du Nord, de Libye, comme on l'appelait à l'époque, se caractérisent par leurs habitudes alimentaires étranges. Par exemple, il y a les struthophages qui se nourrissent uniquement d'autruches. Il y a les acridophages qui se nourrissent uniquement de sauterelles. Et Diodore de Sicile a véhiculé une légende très étrange selon laquelle les acridophages mangeurs de sauterelles mourraient très jeunes, avant 40 ans, dévorés par les sauterelles qu'ils ont eux-mêmes ingérées.
Ah oui, c'était imprudent, oui.
Oui, c'était très imprudent de leur part. Donc il y a beaucoup comme ça de peuples dont les habitudes alimentaires étonnent beaucoup les Grecs. Et puis il y a aussi ce mythe des Éthiopiens brûlés par le soleil, ce qui expliquerait
la
noirceur de leur peau, mais plus encore la noirceur de leur sperme, par exemple, paraît-il. Et la chaleur des pays d'Afrique passait jusqu'à la Renaissance pour donner naissance à des peuples extrêmement dynamiques, agressifs, encouragé par la chaleur.
Là, on a les deux versions. La chaleur peut endormir ou au contraire
stimuler. Ça va basculer à la Renaissance, en effet, avec les cosmographes de la Renaissance, notamment André Thevet, qui explique que c'est tout à fait l'inverse, que si les hommes d'Afrique et les Éthiopiens paraissent brûlés de l'extérieur, à l'intérieur, au contraire, ils ont le chair, les viscères ramollis, ce qui expliquerait leur indolence, mollesse qu'on va retrouver.
L'inverse exactement des Européens.
Et c'est c'est l'origine du mythe de l'indolence des peuples africains qu'on va retrouver appliqué aux peuples indiens.
Eh bien, vous nous conduisez du côté de l'Amérique, si je comprends bien, Olivier Philipponat. Alors, je vais vous proposer un texte de Magellan qui découvre la Patagonie, un géant. C'est Marie-Hélène Freissé qui nous l'offre encore. Ce géant-là, dans tout un monde, sur France Culture, le 23 décembre 2006. Retrouvons ce géant-là.
Nous vîmes un géant qui était sur le bord de la mer tout nu. Et il dansait et sautait et chantait. Et en chantant, il mettait du sable et de la poussière sur sa tête. Quand il fut devant nous, il commença à s'étonner et à avoir peur, et il levait un doigt vers le haut, croyant que nous venions du ciel. Il était si grand que le plus grand de nous ne lui venait qu'à la ceinture. Il était vraiment bien bâti, il avait un grand visage peint de rouge alentour, et ses yeux aussi étaient cerclés de jaune. Aux joues, il avait deux cœurs peints, il n'avait guère de cheveux à la tête et ils étaient peints en blanc. Le capitaine fit bâiller à manger et à boire à ce géant, puis il lui montra quelques objets, entre autres un miroir d'acier. Quand ce géant y vit sa semblance, il s'épouvanta grandement, sautant en arrière et il fit tomber trois ou quatre de nos gens par terre. Après cela, le capitaine lui donna deux sonnettes, un miroir, un peigne et quelques chapelets de patenôtre et le renvoya à terre.
On a cru longtemps à ce géant de Magellan, Olivier Philipponat.
On y a cru, certains y ont cru depuis leur... depuis ce récit de 1520, qui est en réalité le récit de Pigafetta, qui est le principal chroniqueur du voyage de Magellan, jusqu'au début du 19e siècle, donc pendant trois siècles. C'est vraiment intéressant le cas des géants patagons, des géants de Magellanie, parce que finalement c'est la première fois dans l'histoire où les Occidentaux vont réellement rencontrer un peuple fabuleux auquel ils ont toujours cru, qui est celui des géants. Donc les histoires de peuples géants nourrissent la littérature depuis l'Antiquité. Et là, on tombe enfin sur une réalité qui est celle des gens pâtés. Bon, c'est pratiquement la première fois que ça se produit dans l'histoire.
Oui, mais la croyance brouille le regard, puisqu'on croit qu'il y a un géant qui est oui. double de taille par rapport
mais
à
oui, il y a Jules Verne, c'est dans Les Enfants du Capitaine Grant, qui a une phrase très amusante de Jules Verne, qui dit que ce sont quand même des êtres fabuleux, c'est formidable, ces patagons, puisqu'ils ont le buste plus grand que les jambes, de sorte que lorsqu'ils sont assis, ils mesurent 6 pieds, et lorsqu'ils sont debout, ils mesurent 5 pieds. À l'époque de Jules Verne, il y a eu des missions anthropologiques qui ont établi que les Patagons ne mesuraient pas plus de 2 mètres au mieux. Il faut se rappeler que les Espagnols qui sont arrivés et les Portugais qui sont arrivés au tout début du XVIe siècle mesuraient rarement plus d'1,60 m. Donc les Patagons, effectivement, ont pu leur paraître très grands. Mais la controverse, elle va durer jusqu'au milieu du XVIIIe siècle et engager des esprits aussi éclairés que Lacondamine, on en a parlé tout à l'heure, je crois, ou que Buffon, qui hésite beaucoup sur ce sujet. Et puis, ça pose également, effectivement, la question de l'existence de géants dans une contrée, la Magellanie, c'est-à-dire vraiment juste au-dessus de la Terre de Feu, qui est une région froide. Jusqu'à présent, pendant tout le Moyen-Âge, on a pensé que les géants étaient des êtres qui vivaient dans les régions chaudes, parce que la chaleur et l'humidité favorisent le gigantisme, alors qu'au contraire, dans les terres éloignées, comme en Laponie par exemple, on trouve des êtres tout petits. Comment expliquer que des géants se trouvent en Magellanie, presque en terre de feu?
Ça devient encore plus incompréhensible quand on commence à s'occuper des pygmées, qui eux au contraire sont tout petits.
Oui, et on va trouver... Alors les pygmées, bon, le mythe vient des Grecs, bien entendu. Il y a le combat des pygmées contre les grues, qu'on va retrouver en Asie, qu'on va retrouver en Amérique du Nord. Jacques Cartier, quand il arrive en Amérique du Nord, on lui parle des caciques, lui parle d'un pays fabuleux du Saguenay, où on va trouver, encore une fois, des êtres de petite taille, des pygmées, qui se battent contre les grues. On va en trouver même, au XVIIe siècle, on pense qu'il y a même des pygmées au Groenland, par exemple, ou des êtres de petite taille. Alors, et ces pygmées, comme vous l'avez dit tout à l'heure, voilà un de ces peuples fabuleux qui va s'imposer à la réalité à la fin du XIXe siècle, lorsqu'on va rencontrer les pygmées Aka en Afrique.
Ça, c'est Stanley. Stanley oui. qui les décrit en 1888 comme un peuple de nains excessivement nombreux, hostiles, voleurs et lâches, excellents archers, comme nous l'avons appris à nos dépens.
Oui, oui, oui.
Encore une fois, rencontre entre des préjugés nourris de très longue date et une réalité à laquelle on se heurte sans vouloir vraiment qu'elle contredise les préjugés antérieurs.
Non, non, non. C'est vrai que c'est une constante dans cette histoire, c'est que au lieu d'écarter complètement le mythe des pygmées, on va chercher à le conserver, quitte à dévaloriser complètement ces populations.
C'était déjà le combat contre Hercule endormi et c'était déjà la capture de Gulliver par les Lilliputiens. C'est un signe de la popularité du mythe jusqu'au XVIIIe siècle.
Tout à fait.
Vous évoquiez tout à l'heure, Olivier Philippona, la migration des Amazones depuis la région de la City jusqu'en Amérique latine. Je vais vous faire entendre, ça ne concerne pas directement les Amazones, mais c'est un regard intéressant, un texte de Lacondamine, qui est l'explorateur du XVIIIe siècle, nous le savons, qui est descendu l'Amazone à propos des Indiens d'Amérique. Encore une dette à l'égard de Marie-Hélène Fraissé, puisque c'est un extrait de son émission L'échappée belle sur France Culture en juin 1985. Lacondamine et son récit.
Le 27 juillet 1743, au matin, nous abordâmes à la mission de Saint-Joaquin, composée de plusieurs nations indiennes et surtout de celle des Omaguas, nation autrefois puissante, et qui peuplait encore il y a un siècle les îles et les bords de l'Amazone dans la longueur environ 200 lieues au-dessous du Napo. Le nom d'Omaguas dans la langue du Pérou, ainsi que celui de Cambvas que leur donnent les Portugais du Pará dans la langue du Brésil, signifie « tête plate ». En effet, ces peuples ont la bizarre coutume de presser entre deux planches le front des enfants qui viennent de naître pour leur procurer cette étrange figure et pour les faire mieux ressembler, disent-ils, à la pleine lune. Les Omaguas font grand usage de deux sortes de plantes, l'une que les Espagnols nomment floripondio, l'autre qui, dans la langue omagua, se nomme curupa, et dont j'ai rapporté la graine. l'une et l'autre sont purgatives. Ces peuples se procurent par leurs moyens une ivresse qui dure 24 heures, pendant laquelle ils ont des visions fort étranges. Ils prennent aussi la curupa, réduite en poudre, comme nous prenons le tabac. Ils se servent d'un tuyau de roseau terminé en fourche et de la figure d'un Y. Ils insèrent chaque branche dans une narine. Cette opération, suivie d'une aspiration violente, leur fait faire une grimace fort ridicule aux yeux d'un Européen qui veut tout rapporter à ses usages. Tous les Indiens américains des différentes contrées que j'ai eu occasion de voir dans le cours de mon voyage m'ont paru avoir certains traits de ressemblance les uns avec les autres. J'ai cru reconnaître dans tous un même fond de caractère. L'insensibilité en fait la base. Je laisse à décider si on la doit honorer du nom d'apathie ou la vilir par celui de stupidité. Elle naît sans doute du petit nombre de leurs idées qui ne s'étend pas au-delà de leurs besoins. Gloutons jusqu'à la voracité quand ils ont de quoi se satisfaire, sobres quand la nécessité les y oblige, jusqu'à se passer de tout sans paraître rien désirer, pusillanimes et poltrons à l'excès si l'ivresse ne les transporte pas, ennemis du travail, indifférents à tout motif de gloire, d'honneur ou de reconnaissance, incapables de prévoyance et de réflexion, se livrant quand rien ne les gêne à une joie puérile, qu'ils manifestent par des sauts et des éclats de rire immodérés, sans objet et sans dessein. Ils passent leur vie sans penser et ils vieillissent sans sortir de l'enfance dont ils conservent tous les défauts.
On est là, déjà, Olivier Philippona, la rencontre entre les mythes et le regard de ceux qui viennent découvrir des réalités, mais qui continuent d'être marqués par les mythes.
Il y a deux choses qu'on peut dire sur cet extrait du journal de voyage de La Condamine. Il parle des tribus qui compriment le crâne des enfants, ce qui était une réalité pour certaines des tribus amérindiennes.
Pour en faire des faces lunaires.
Voilà, c'est ça. On trouvait déjà ça. Xénophon parle des Macrons. D'Arménie, de ce qui s'appelait, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arménie, qui pratiquait également la déformation des crânes des enfants à l'aide de bandelettes et de lanières, etc.
Donc c'est les Macrons.
Les Macrons. Oui, oui. Mais c'est intéressant parce que en Amérique, les explorateurs vont rencontrer tous les mythes auxquels les hommes ont cru en Inde, notamment par exemple ce qu'on a appelé les hommes à tête carrée, ou les hommes ou les acéphales. On va les retrouver en Amérique.
Acéphales qui n'ont pas de tête.
Qui n'ont pas de tête. Voilà, on est un peu dans le même type de légende. L'explorateur Walter Raleigh, par exemple, à la fin du XVIe siècle, est convaincu de les avoir rencontrés dans les Guyanes.
C'est d'ailleurs l'image que vous avez choisie sur la couverture de votre géographie des peuples fabuleux, un
Tout
personnage sans tête. En fait, c'est le corps qui devient une tête.
C'est le corps qui devient une tête. Et Walter Raleigh est convaincu de les avoir rencontrés. Il les appelle les Ewaipanoma. L'autre chose qu'on peut dire de l'extrait de La Condamine, c'est au sujet de cette dévalorisation à ses yeux des tribus indiennes, c'est que au XVIIIe siècle, il y a le mythe du bon sauvage, bien entendu, et il y a aussi le mythe qui n'est pas un mythe, de l'anthropophage. Et ces deux aspects de l'humanité indienne se contredisent. Et finalement, les philosophes des Lumières vont expliquer que les bons sauvages, les anthropophages, sont des bons sauvages. Et que l'anthropophagie n'est pas une pratique barbare comme on l'a cru depuis l'Antiquité.
Au fond, on retrouve cette opposition tout au long de cette histoire des peuples fabuleux tels qu'imaginés. C'est-à-dire, à certains moments, la fascination pour autre chose, peut-être pour un bonheur qu'on n'a pas. Et puis, en même temps, un sentiment souvent mêlé ou consécutif de supériorité qui peut conduire jusqu'à la colonisation.
Oui, et pour un certain nombre d'esprits éclairés, du XVIe jusqu'au XVIIIe siècle, la découverte des Amériques, c'est aussi l'occasion de porter sur soi-même un regard qui soit un regard extérieur et à envisager qu'on puisse être soi-même un peuple fabuleux. Au XVIIIe siècle, beaucoup de récits sur les sauvages de l'Europe, par exemple, On trouve ça chez Marivaux, notamment. On trouve ça chez beaucoup d'auteurs. On trouve ça aussi chez beaucoup d'auteurs protestants, notamment, qui en profitent pour contester la vision catholique de l'humanité.
C'est un de vos thèmes. D'ailleurs, je vous cite Olivier Philipponin, « Le propre des peuples fabuleux, même quand ils ont cessé d'être plausibles, est d'offrir à l'humanité un miroir déformant où scruter sa propre bizarrerie. »
Oui, c'est ce qui est arrivé, par exemple, lors de la conquête du Mexique, par exemple, où les Espagnols ont été les premiers surpris d'être pris eux-mêmes pour des créatures fabuleuses, venues d'un horizon où le ciel et la mer se rejoignent, donc peut-être venues du ciel, confondues avec des divinités, et même pris pour des anthropophages eux-mêmes. Il y a un passage, il y a un épisode assez fameux où Moctezuma, le dernier empereur inca, envoie des émissaires au devant de Cortés et des conquistadors, en leur recommandant avec des offrandes, et en recommandant de se laisser manger par les nouveaux venus, par les envahisseurs, si ces offrandes ne leur convenaient pas. C'est-à-dire que les Espagnols sont pris tout d'un coup, tantôt pour des dieux, tantôt pour des anthropophages et des sacrificateurs eux-mêmes. C'est en quelque sorte le début de l'ethnographie, finalement. C'est de porter sur les autres un regard qu'on peut porter sur soi-même également. Lévi-Strauss citait très très souvent un livre de Jean de Léry, qui est un pasteur protestant, qui a vécu chez les anthropophages et qui expliquait que finalement, pendant les guerres de religion en France, notamment pendant le siège de Sancerre, on a vu des scènes d'anthropophagie. On a vu pendant le siège de Paris des scènes d'anthropophagie. On a mangé du pain cuit avec des cendres, avec les ossements des catacombes réduits en poussière, et que finalement, l'anthropophagie, qui est un caractère fabuleux aux yeux des Occidentaux, est peut-être un caractère universel de l'humanité.
C'est un thème de Claude Lévi-Strauss qu'on trouve dans un texte important, posthume, je crois, de 2013,
ah oui, magnifique, oui.
Sur le cannibalisme, pour dire qu'il ne faut pas regarder les choses de façon trop simple, au fond. Et d'ailleurs, il passe devant un étal de bouchers. Ça ferait plaisir à Monsieur Émeric Caron en disant qu'il n'y a pas tellement de différence entre le fait de manger de la chair humaine et de la chair animale.
Oui, oui, ce texte s'appelle « Nous sommes tous des cannibales », en effet. Et Lévi-Strauss dit que c'est écrit en 96, je crois, donc on est presque 30 ans plus tard.
Mais publié plus tard.
Oui, ça a été publié de façon posthume, et explique que dans le futur, peut-être que nous serons, peut-être que nos descendants seront très surpris de voir qu'on étalait de la viande à la devanture des boucheries, et qu'on en concevra peut-être la même horreur que les hommes de la Renaissance pour l'anthropophagie.
En parcourant avec vous cette histoire des peuples fabuleux, Olivier Philipponin, je songeais à une citation de Mona Ouzouf dans la composition française. Elle disait « La géographie est une école de songes ». Il y a toujours une sorte de conflit du côté de la géographie entre l'effort pour trucider les songes et en même temps pour les accepter comme un ressort de sa curiosité.
On peut rappeler par exemple que Christophe Colomb, lorsqu'il arrive aux Amériques, lui, croit arriver à l'extrême de l'Orient, croit arriver à Cipango, mais convaincu qu'il va trouver les êtres fabuleux dont on lui a parlé. Et les Indiens ne vont pas, du reste, le démentir.
Cipango, c'est le Japon.
C'est le Japon, oui, oui. Ils ne vont pas le démentir. Les tout flatteurs vite aux dépens de celui qui l'écoute. Et les histoires d'hommes avec une queue au milieu du ventre, par exemple, dont il va entendre parler, il est tout prêt à y croire, comme il est tout prêt à croire qu'il va rencontrer le grand Khan, peut-être à Juana, qui est l'île de Cuba, par exemple. Donc, oui, le songe est... Colomb a beaucoup songé, a beaucoup rêvé de rejoindre l'Orient par la voie de l'Atlantique, est un aimant très très puissant pour la découverte et pour la géographie. On a souvent fait remarquer que les savants du Moyen-Âge et de la Renaissance très souvent étaient beaucoup plus crédules que les voyageurs qui rapportaient des récits. Alors, par exemple, Vespucci disait à Laurent de Médicis « Mais j'ai traversé la zone torride, elle est tout à fait traversable et on trouve quantité d'hommes en dessous de la zone torride, etc. » Mais pour les savants, les érudits de l'époque qui n'ont jamais mis le pied dans un bateau, ou qui ont voyagé en faisant le tour de leur chambre, comme dit Diderot, c'est quelque chose qu'ils mettront encore longtemps à accepter.
Mais déjà Strabon, dans l'Antiquité, repérait les bégaiements du mensonge, c'était sa formule, mais sans vraiment les censurer, parce qu'il y voyait un ressort aussi de la curiosité pour les hommes.
Oui, et puis parce que Strabon est un historien, et puis Strabon écrit l'histoire de l'humanité depuis les temps mythologiques, donc il ne va pas se priver de raconter des légendes, ça fait partie de sa mission d'historien.
Sur cette dialectique du rêve et de la réalité, il y a un cas très précis qui m'a amusé dans votre livre, Olivier Filippona, qui survient après qu'un être bizarre aurait été capturé à Madagascar par le duc de la Meilleraie, rapporté à Nantes en vue de l'exhiber à la cour du jeune Louis XIV. Et c'était un géant qui arborait, nous dit-on, un col en trompe d'éléphant, une tête de chameau, deux oreilles de renard et un bec de perroquet. C'est un certain Philippe de Villiers qui dit ça, mais qui en réalité s'inspirait d'une gravure réalisée à Nantes et qui annonçait l'arrivée à Paris d'un monstre difforme.
Oui, vous en avez tout dit, en effet. Et effectivement, ces hommes grues qui sont... Alors lui, c'est un peuple fabuleux qui apparaît vraiment à cette époque-là, au XVe siècle, dans la chronique de Nuremberg de Hartmut Schedel, où il y a une gravure très célèbre de l'homme grue avec un cou absolument immense, presque un cou de cigogne, des bras difformes, etc. Mais et qui va être beaucoup reproduit sous des formes diverses, mais toujours d'après ce modèle, jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Vraiment alors une espèce de fantaisie tératologique en quelque sorte, mais auquel personne n'a vraiment jamais cru. Alors beaucoup ont promis qu'on allait pouvoir les exhiber, qu'on allait en rapporter à la cour de Louis XIV, qu'on en avait trouvé en Hongrie, etc. Mais on n'en a jamais vu, la tête, si j'ose dire.
On retrouve tout au long de cette réflexion l'idée qu'il s'agit souvent de peuples reclus. Le thème de l'isolement se confond souvent avec celui de l'insularité. Je crois que c'est important. Après tout, l'Atlantide fait aussi partie de votre sujet.
Oui, exact. Oui, l'Atlantide qui est un continent par lequel auraient pu transiter les peuples fabulés de l'Occident vers les Amériques, par exemple.
Cher à Platon,
oui, et puis,
l'Atlantide.
Et c'est vrai que très souvent, le mythe des Amazones, par exemple, se perpétue dans ce qu'on appelle les Insula Feminarum, les îles des femmes, ou les féminis. Il y a des expéditions qui vont être montées en Amérique du Sud au XVIIe siècle pour aller trouver le pays des Amazones qui détiendrait beaucoup d'or. Et elles vivraient, selon certains auteurs, sur une île, dans un lac fabuleux, qui est le lac Parimé, qui se trouverait au Venezuela, dans d'immenses forteresses. Donc oui, le thème de l'île est absolument indissociable des peuples fabuleux. C'est ces îles qu'on retrouve sur les planisphères du Moyen-Âge, qui entourent complètement la terre habitée, au-delà de l'océan extérieur.
Avec souvent des dessins tout autour, qui représentent précisément des peuples fabuleux.
Tout à fait.
Eh bien, merci pour ce panorama, merci pour ce voyage à la fois dans le temps et dans l'espace, Olivier Filippona. Je rappelle que votre ouvrage, paru il y a un an, s'appelle « Géographie des peuples fabuleux », paru chez Buchet-Chastel. J'y renvoie tous ceux qui ont envie de continuer à voyager avec vous. Et puis, je voudrais également évoquer le « Dictionnaire des lieux imaginaires », un livre important paru aux Actes Sud de Alberto Manguel. Citer également le dictionnaire des lieux et pays mythiques dans la collection Bouquins chez Robert Laffont, paru en 2011, sous la signature de Olivier Battistini, Jean-Dominique Poli et Pierre Ronzeau. Et puis, j'ai souvent reçu à ce micro, pour notre bonheur, Georges Vigarello, et notamment quand il avait écrit il y a quelque temps une histoire des lointains entre réel et imaginaire. Plusieurs des thèmes qu'il évoque recoupent ceux qui ont été les nôtres ce matin. Et puis, vous avez fait fond sur l'œuvre importante de Claude Lecouteux. Le détail de ces livres seront en ligne. Vous pourrez trouver la référence des documents sonores que nous avons utilisés sur notre site, sur le site de Concordance des Temps. Et vous pourrez également, évidemment, écouter, réécouter et podcaster cette émission comme d'autres qui sont proches et qui sont en ligne, notamment celle sur les Amazones avec Violaine Sébillotte-Cuchet. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée désormais par Vincent Abouchard, avec à la prise de son Raymond Albouy, à la discothèque Nathalie Rouvillain et pour les archives de l'INA, Emmanuel Lucioni. Ce début de saison, je voudrais spécialement remercier la documentation de Radio France qui nous fournit toujours des revues de presse extrêmement précieuses.
France Culture présente « Vers un pays lointain, dialogue sur l'Antiquité ». Un voyage inspirant dans le passé pour découvrir les richesses du temps et mieux comprendre notre présent.